Le journal Loïc Barrière. La visite à Abu Dhabi du Premier ministre israélien pour une rencontre avec le nouveau président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed. Un nouveau raid israélien a visé des dépôts appartenant au Hezbollah et à l'Iran près de l'aéroport de Damas. Nouvelle crise sur le nucléaire iranien, Téhéran a débranché 27 caméras de surveillance installées sur des sites sensibles. La campagne électorale en France pour les législatives prend fin à minuit avant le premier tour dimanche. Les deux invités de Pluriel ce soir, Mohamed Hakou, maire adjoint de Gonesse, candidat dans la 9e circonscription du Val-d'Oise, et Karim Ziabat, candidat lui dans la 10e circonscription du Val-d'Oise, extrait dans ce journal. Enfin, l'histoire à l'honneur à l'Institut du monde arabe jusqu'à dimanche soir. Nous écouterons Frédéric Mehdi, directrice des actions culturelles à Lima. Un sommet hier à Abu Dhabi entre le Premier ministre israélien et le nouveau président des Émirats Arabes Unis, Naftali Bennett et Cheikh Mohammed Ben Zayed, souhaitent renforcer la coopération entre les deux pays dans les secteurs de l'économie, du développement, de l'investissement, de la santé et de la sécurité alimentaire. Le Premier ministre israélien a par ailleurs présenté ses condoléances aux Émirats Arabes Unis après le décès de l'ancien président Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, décédé le 13 mai. Au Nigeria, 32 personnes ont été tuées par des hommes armés dans l'état de Kaduna. Plusieurs attaques ont été menées dans des villages. Israël a tiré des missiles au sud de Damas, blessant au moins un civil. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse officielle syrienne Sana. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise qu'Israël a visé des dépôts appartenant au Hezbollah libanais et à des forces iraniennes près de l'aéroport de Damas. L'escalade entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Téhéran a retiré 27 caméras de surveillance installées sur des sites nucléaires, une mesure de représailles après le vote de l'AIEA d'une résolution rappelant à l'ordre l'Iran pour son manque de coopération. Les élections législatives en France, fin de la campagne électorale à minuit, avant le premier tour dimanche. Parmi les candidats, Mohamed Hakou, maire adjoint de Gonesse, candidat dans la 9e circonscription du Val-d'Oise. Il se veut le candidat de la réconciliation nationale. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, extrait de cette émission.
J'aime à dire à mes concitoyens que c'est une circonscription, j'appelle ça urbain. C'est à la fois un mélange de ruralité et en même temps beaucoup d'urbanisme. On peut prendre les villes de Gonesse comme celle de Goussainville, qui sont des villes plutôt urbanisées, où il y a des quartiers populaires, il y a des difficultés, hein, comme chaque ville. Donc on ne traite pas Gonesse et Goussainville, par exemple, comme on pourrait traiter une ville comme Vaudermes, où effectivement c'est plutôt cette ruralité, il y a des agriculteurs, enfin voilà, c'est pavillonnaire, on peut voir. Et à part ces deux villes-là, on peut aussi trouver Roissy en France, où il y a l'aéroport Charles de Gaulle, qui existe depuis maintenant plus de 40 ans, certaines nuisances sonores dans nos territoires qu'il faudra aussi regarder de très près et essayer de contribuer à... Parce qu'on ne peut pas bénéficier de ces nuisances et en même temps ne pas bénéficier des retombées économiques. Donc ça aussi c'est un sujet, l'emploi, comment mettre au cœur de notre territoire cette proximité avec nos habitants pour qu'ils puissent bénéficier des emplois de l'aéroport et toutes les sociétés aux alentours. Donc voilà un peu si je pouvais rapidement parler de cette circonscription, c'est qu'elle est à la fois atypique et elle concentre, on peut parler de personnes qui sont plutôt sur la ruralité et d'autres plutôt sur l'urbanisation.
Mohamed Hakou, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le mot d'ordre de votre campagne, c'est la réconciliation nationale. La société française n'a jamais été aussi divisée. Comment parvenir à cette réconciliation?
Pour moi, la chose la plus importante, c'est travailler sur, euh, sur comment mettre en place des actions de proximité et surtout de vivre ensemble. Aujourd'hui, avec mes différents soutiens, on s'aperçoit que quand on va à la rencontre des habitants, on sent cette espèce de défiance, cette espèce de frustration. Alors qu'en vérité, quand on regarde de près, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Et c'est là qu'il faut travailler sur ces choses qui nous rassemblent. Et on peut effectivement mettre en place des actions à ce niveau-là, et ensuite, ce qui nous divise, essayer de surmonter ces obstacles. Et comment les surmonter ? Eh ben, expliquer les choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des voisins qui se côtoient tous les jours ne se parlent plus ? Même un bonjour ou un bonsoir, ils ne l'échangent plus. Il y a une forme de déshumanisation. On a vu aussi pendant ces deux dernières années, le lien qui a été coupé, les gens étaient chez eux, confinement, déconfinement. Donc est-ce que c'est une volonté de la part des pouvoirs publics, quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, quand on regarde toutes ces manifestations qu'il peut y avoir ici et là, est-ce que c'est une volonté que les gens ne se parlent plus ? Bon, à mon sens, je préfère être dans l'action, je préfère essayer de mettre en place des actions, comme j'ai pu le faire depuis de nombreuses années, de vivre ensemble et de cohésion nationale. Et cette promesse, c'est pour ça que je parle de promesse de réconciliation, je m'y attellerai durant ces 5 prochaines années pour essayer de remettre de l'amour, du bonheur et surtout un dialogue, la communication entre les habitants.
Mohamed Hakou, maire adjoint de Gonesse, candidat dans la 9e circonscription du Val d'Oise. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Le second invité de Pluriel est Karim Ziabat, candidat lui dans la 10e circonscription du Val d'Oise. Habitant de Cergy, il promet d'être le candidat du RERA. On l'écoute.
Ici à Cergy-Pontoise, il y a une vraie inégalité à la fois sur les branches de Marne, la vallée Chessy, comme vous le dites, mais aussi sur les branches de Poissy ou encore de Saint-Germain-en-Laye. Sur la branche de Cergy, à titre indicatif, par rapport à la branche de Poissy, nous avons 5 fois plus d'usagers. Ça veut dire que quand on a 10 000 usagers sur la branche de Poissy, nous en avons 50 000 sur Cergy. Et malgré cela, nous avons le même nombre de RER et parfois même 2 fois moins de RER. C'est notamment la différence avec la branche de Saint-Germain-en-Laye. Tout ça s'explique par une question de rapport de force. C'est-à-dire que nous avons eu, dans les territoires des Yvelines, des élus, des députés, des ministres qui ont su œuvrer pour leur territoire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il nous manque sur ce territoire-là. Nous avons perdu 5 ans avec le député actuel et je suis persuadé que nous avons besoin d'un député qui vive ces problématiques-là pour pouvoir totalement s'emparer et enfin créer un rapport de force. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord convoquer les institutions et les partenaires, la SNCF, la RATP, le STIF, la région Île-de-France, pour pouvoir demander un audit très clair des problématiques que nous avons sur cette ligne-là, pour pouvoir demain avoir un plan d'action, d'investissement très clair, et non pas des travaux tous les étés pour lesquels nous ne voyons pas grands effets. Et si cette solution ne fonctionne pas, moi je suis prêt à aller plus loin, à réaliser des opérations coup de poing, parce qu'il y a un moment, il faut que les partenaires se rendent compte de ce que vivent les habitants de ce territoire. Parce que c'est un territoire qui est parfois enclavé, avec des vraies difficultés, avec des wagons qui sont bondés tous les jours, tous les soirs, avec des gens debout, avec, quand il y a des pannes, des catastrophes pour entrer, avec des navettes de manière assez régulière. Et donc, il faut vraiment qu'on crée un rapport de force avec, quitte à faire des opérations coup de poing, des opérations très médiatisées pour permettre finalement que tout le monde prenne conscience de l'urgence qu'il y a à avoir plus de justice sur ce RERA, parce que c'est une fracture territoriale qui est alimentée par cette plaie, ce RER.
Vous avez le sentiment qu'il y a un peu de mépris pour les habitants de Cergy qui ne sont pas traités comme les autres habitants sur cette question du transport ?
C'est plus qu'un sentiment. D'abord, c'est un sentiment partagé par l'ensemble des habitants d'ici. C'est une réalité parce que quand, encore une fois, on voit les chiffres de l'affluence qu'il y a sur la ligne RERA de Cergy, qui est largement supérieure à celle de Saint-Germain-en-Laye de Poissy, et quand on voit le nombre qui est inférieur, mathématiquement, ce n'est pas juste. C'est même immoral parce que, allons plus loin. Souvent, les gens me disent « Oui, mais ce sont des gens qui sont plus aisés à Saint-Germain-en-Laye ou en tout cas sur ces branches-là. » Ben justement, si le transport devait combler des inégalités, il devrait combler les inégalités en étant plus important, en étant plus fiable, plus régulier sur des branches qui aujourd'hui sont des branches avec des territoires peut-être moins aisés que les autres. Et donc, pour moi, c'est un vrai combat d'égalité, tout simplement. Il y a une vraie inégalité, une discrimination territoriale, je le dis très clairement, sur la branche de Cergy aujourd'hui. Et donc, il y a un moment, il va falloir que les partenaires rendent des comptes. Et moi, je serai le député du RERA, je le dis assez tranquillement, parce que je me battrai quotidiennement, chaque semaine, chaque mois, pour obtenir des vraies avancées et faire de ce mandat un mandat utile pour les usagers du RERA.
Karim Ziabat, candidat dans la 10e circonscription du Val d'Oise. Il est l'invité de Pluriel à 19h30 et 23h30. La Chine n'hésitera pas à déclencher une guerre si Taïwan déclare son indépendance. C'est l'avertissement lancé par un porte-parole du ministère de la Défense chinois après une rencontre entre le ministre chinois et son homologue américain à Singapour. Gérald Darmanin a écrit au ministre de l'économie Bruno Le Maire pour qu'il favorise le dialogue entre la Fédération bancaire française et les associations musulmanes. Cet appel du ministre de l'Intérieur intervient alors que des mosquées du Rhône ont dénoncé des fermetures de comptes d'associations musulmanes. Ce samedi et dimanche, l'Institut du Monde Arabe célèbre la 8e édition des Journées de l'Histoire, des rencontres sur le thème « Femmes et genre », des journées placées cette année sous la présidence de deux figures du féminisme, Michel Perrault et Wassila Tamzali. La journée a été lancée ce vendredi. On écoute Frédérique Mehdi, directrice des actions culturelles de l'IMA.
Les journées de l'histoire, en effet, existent depuis 2015 à l'Institut du Monde Arabe, sous la houlette de Francis Chevrier, qui avait fondé les rendez-vous de l'histoire de Blois. Et donc, on a adapté ce rendez-vous à l'Institut du Monde Arabe. Et il réunit donc chaque année plusieurs dizaines, parfois, de chercheurs, historiens, universitaires, qui abordent les diverses thématiques autour de l'histoire du monde arabe, des mondes arabes d'ailleurs, pour être plus précis.
Et ouais, cette année, vous avez choisi de parler notamment des femmes.
Absolument, des femmes et du genre dans cette histoire, dans ces histoires du monde arabe, donc à la fois en abordant des figures emblématiques, mais aussi leur statut dans les différentes sociétés de l'histoire du monde arabe depuis l'Antiquité, de leur lutte, de leur combat, de leur place aujourd'hui dans les diverses sociétés du monde arabe. Et on a placé d'ailleurs cette édition sous la coprésidence d'honneur de Michel Perrault et de Wassila Tamzali, qui sont elles-mêmes des figures évidemment éminentes du féminisme.
Et qui viennent toutes les deux de sortir un ouvrage écrit en commun. Et donc, l'Institut du Monde Arabe, c'est dans toutes les salles, dans tous les espaces de l'Institut que se déroulent ces rencontres sur l'histoire.
Absolument. L'idée, c'est de multiplier les sujets pour multiplier les adresses, parce que chacun doit pouvoir trouver un intérêt à ses rendez-vous à travers un sujet qui le touche plus particulièrement. Donc, du sol au plafond, j'ai envie de vous dire. Voilà, on organise table ronde, conférences, présentations d'ouvrages, dans la salle du Haut Conseil, dans l'auditorium. Il y a également des projections de films, c'est important de le noter. Et puis, effectivement, un éclairage données très importants aux ouvrages remarquables, en fait, consacrés à l'histoire du monde arabe, et notamment à travers une distinction qui est dotée par l'Académie du Royaume du Maroc, qui met en lumière un livre portant sur un sujet spécifique de l'histoire du monde arabe, et dont le jury qui promeut l'un d'entre eux considère que c'est une recherche particulièrement innovante.
Et cette année, il y a beaucoup d'ouvrages aussi sur l'Algérie à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.
Absolument, la production évidemment des ouvrages est parfois conditionnée par entre guillemets une actualité de type commémoration. Donc c'est vrai que un certain nombre, même des intervenants vont se pencher notamment sur la question des femmes en Algérie.
Est-ce que vous invitez le jeune public à venir assister à ces conférences qui parfois peuvent être un peu pointues?
Alors, et comment on invite pas seulement le jeune public, le public de alors peut-être pas de 7, mais en tout cas presque de 7 à 77 ans, parce que l'enjeu de ces journées de l'histoire, l'enjeu de ces journées de l'histoire est précisément d'être ouverte au plus grand nombre. Les sujets peuvent sembler parfois ardus, mais on enjoint évidemment l'ensemble des intervenants à proposer des temps accessibles, voilà, qui ne soient justement pas destinés exclusivement aux spécialistes, mais qui peuvent être entendus et compris par le plus grand nombre. Donc on peut être amateur, néophyte, et à la fois ou au contraire passionné par le sujet, mais là, l'idée c'est vraiment de rendre le plus accessible possible l'ensemble des sujets qu'on propose.
Et vous sentez une appétence particulière en France sur l'histoire et notamment l'histoire du monde arabe. Il y a véritablement un besoin de savoir, un besoin d'apprendre.
Oui, je pense que là, une forme de réappropriation pour certains de nos concitoyens de leur histoire est absolument essentielle. Mais de manière générale, en effet, c'est une histoire qui est relativement méconnue et on sent en effet, et de plus en plus, ces journées de l'histoire répondent à ce besoin. On est, comme vous le dites, une véritable appétence pour connaître une histoire finalement qu'on détricote aussi parfois, parce qu'elle est c'est aussi l'occasion de défaire des clichés parfois tenaces par ignorance finalement de cette histoire plurimillénaire et qui a ô combien affecté l'histoire du monde en général.
Et c'est aussi une occasion de rencontrer des spécialistes réunis pendant 3 jours, des gens qui vivent aux 4 coins du monde.
Alors absolument, et ça c'est un des éléments très importants des journées d'histoire, à la fois qui est une double adresse en fait, hein. À la fois une adresse au public le plus large, mais aussi un temps effectivement où des professionnels qui ont finalement moins l'occasion de se réunir peuvent, dans le cadre de ces 3 journées où ils débattent et présentent le fruit de leur recherche, se rencontrer eux-mêmes, hein, et échanger autour des sujets qu'ils abordent dans leur spécialité, en effet. Donc c'est aussi un temps d'échange professionnel important.
Frédéric Mehdi, directrice des actions culturelles de Lima. Ces rencontres sont gratuites ce week-end sur réservation. Vous pouvez réserver votre place en allant sur le site de Lima. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.